Bonjour Agnès.
Bonjour, bonjour chers auditeurs.
Bienvenue sur Radio Équilibre.
Oui, toi aussi.
Oui, et alors Agnès, est-ce qu'on se présente un petit peu avant? Oui.
Bien sûr. Bon, moi je suis Agnès Jaillet, je suis sophrologue caïcédien et je pratique au PEC dans le 78 près de Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et je me suis spécialisée en sexologie parce que je trouve que c'est une discipline que l'on aborde peu hein, en France en ce moment et qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des problèmes et qui seraient peut-être bien contents de pouvoir exposer leurs problèmes et peut-être que je pourrais essayer de les aider.
Bien, alors moi je suis Elisabeth Bréant, sophrologue, caïcédien aussi. Et donc j'aurai le plaisir d'animer avec Agnès en alternance un lundi sur deux. Et avec Agnès, nous avons décidé de nous retrouver une fois par mois, toutes les deux, et d'avoir une thématique. Mmh. Et pour cette première émission, nous avons donc choisi la sexologie, qui est ta spécialité. Donc nous allons proposer à nos auditeurs aujourd'hui lundi 8 avril, donc la sexologie, avec une technique de sophrologie.
Voilà.
Voilà. Le mois prochain, nous ferons le stress ensemble.
Oui, nous animerons une émission concernant le stress.
Voilà. Avec aussi une technique à la clé.
Une technique rapide du stress en une séance.
Eh bien Agnès, moi je te propose de rentrer dans le vif du sujet et d'ores et déjà d'entamer la sophrologie et la sexologie.
Très bien, parfait, c'est parti.
Tu as développé cette spécialité en sexologie, sachant que c'est pas très très commun.
Bah écoute, justement, c'est parce que ça n'est pas très commun que j'ai voulu me spécialiser dans cette voie, parce que d'abord autour de moi, j'entends beaucoup de gens se plaindre de leurs problèmes de couple et notamment sexuels. Je me suis dit que je pouvais peut-être apporter quelque chose à des personnalités qui avaient des troubles de ce côté-là et que la sophrologie pouvait leur apporter quelque chose. Et donc moi aussi.
D'accord.
Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a comme spécialité à faire? Comment on se spécialise?
Écoute, j'ai été formée par mon école de sophrologie que tu connais bien aussi, l'Académie.
C'est la même,
voilà,
c'est la même.
L'Académie du docteur Chénet qui fait une spécialisation en sexologie.
Tout
et
à
j'ai
fait.
Été aussi me spécialiser dans une autre école de sophrologie pluridisciplinaire qui m'a également formée. Au niveau sexologie.
Voilà, et je crois savoir, je ne dévoile rien, mais que tu continues de toute façon à te former.
Complètement. Là, je vais faire une autre formation en sexologie qui va déboucher sur un master, je pense.
D'accord.
Donc voilà. Mais je ne parle pas encore du futur.
Non, mais c'est juste pour montrer que c'est un vrai sujet quand même.
Ah bah c'est un vrai sujet, totalement.
D'accord.
Voilà, qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que ça touche quand même pas mal de monde, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs.
Voilà, ça touche du monde, mais c'est un sujet sur lequel on parle peu.
On parle peu, oui, parce qu'il y a encore des choses taboues, bien que nous soyons au 21e siècle et qu'on mange du sexe à tout va, pour n'importe quoi, mais il y a quand même certaines choses et certains comportements qui restent tabous. Et c'est là où, justement, il y a des personnes qui peuvent en souffrir. Donc, j'estime qu'il faut dédramatiser les situations et faire tomber les tabous pour que les gens se portent mieux à ce niveau-là.
D'accord. Alors, justement, en préparant l'émission, on en parlait.
Mm-hmm.
C'est peut-être aussi plus facile pour une femme d'en parler que pour un homme.
Je pense, oui.
Une femme peut aller voir déjà plus facilement un sexologue.
Voilà.
Voilà, ou son gynécologue.
Son gynécologue, c'est la première personne à laquelle une femme peut logiquement parler. Puisque nous, on a encore la chance d'avoir des gynécologues, bien que cette profession soit en voie de peut-être d'être retirée de la profession médicale, ce qui serait bien dommage pour toutes les femmes. Et donc, nous, femmes, on peut s'adresser directement à notre gynécologue, hein, qui est souvent une femme d'ailleurs, mais même à un homme qui a l'habitude de résoudre des problèmes féminins, on peut s'adresser à lui et lui dire « Voilà, j'ai un souci, je ne sais pas trop quoi faire, que me conseillez-vous? Quelles solutions je peux adapter ?» etc. Donc voilà, un homme, en dehors de sa compagne ou d'un bon copain, c'est plus difficile. Et je pense que la démarche également pour lui est plus difficile. Mmh.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut avoir une compagne quand on est un homme avec des soucis. Il faut avoir une compagne qui soutienne cette démarche et qui soit vraiment aidante.
Tout à fait. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on parle là de dysfonctionnement sexuel? Mm-hmm. Quels sont les problèmes que l'on rencontre pour mettre des mots vraiment sur ces dysfonctions? Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, tu traites le plus actuellement?
Alors, moi, pour l'instant, à mon cabinet, j'ai surtout rencontré... Alors, on va parler tout d'abord de la femme. Chez la femme, j'ai surtout rencontré des problèmes de frigidité et des problèmes de dyspareunie. Alors, la dyspareunie, ce sont des douleurs. Hein, alors, on va déjà étudier le problème de la frigidité. La frigidité qui est, comme je pense on le sait maintenant, c'est une absence de plaisir et même de désir. Hein, chez la femme, donc absence de désir, on ne désire pas ou plus son compagnon. Donc, absence de plaisir lors de l'acte sexuel. Donc, la frigidité peut être soit primaire, c'est-à-dire éprouvée depuis le premier rapport sexuel, soit secondaire, c'est-à-dire apparaître après avoir eu une vie sexuelle épanouissante. Donc, il y a les deux cas qui peuvent se poser. Alors, les causes, si tu veux bien qu'on parle
bien
de
sûr,
quelques causes
bien sûr,
de
Annès,
cette frigidité.
Il faut aller jusqu'au bout, voilà. Que nos auditeurs
comprennent bien les
bien.
Processus et ce qu'on peut apporter.
Et certainement qu'ils se sentent moins seuls, peut-être.
Voilà. Hein. Tout à fait. Si on en parle, déjà, ça ouvre le débat et les femmes s'aperçoivent qu'on peut parler de ça en toute liberté et en toute pudeur même, je dirais. Il n'y a pas de tabou à parler de ces problèmes.
Ça va être l'objectif de notre émission d'aujourd'hui.
Alors, les causes, elles peuvent être diverses. Elles peuvent d'abord, il faut d'abord bien sûr exclure toute cause organique, hein, en allant consulter justement son ou sa gynécologue. Donc ça peut être des infections vaginales, ça peut être des causes dues au diabète, ça peut être des problèmes cardiovasculaires, des problèmes toxiques, hein, qui peuvent être dus à une prise d'alcool, de tabac, de psychotropes, hein, puisqu'on sait que les psychotropes ont quand même une incidence sur la libido, certaines malformations physiologiques qui peuvent être de l'ordre du rétrécissement de l'orifice vulvaire ou du vagin double, ce qui est quand même assez rare. Ensuite, tout en sachant que le plaisir passe par le cerveau, hein, le cerveau est quand même coordinateur du plaisir et du désir, il faut pratiquer bien sûr une anamnèse précise pour savoir si le patient ne connaît pas une période de fatigue. Parce qu'on peut être en burn-out, hein, dû à son travail, avoir des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, enfin toutes sortes de problèmes qui peuvent mener à une petite dépression, une baisse d'énergie, car les facteurs psychologiques sont nombreux, hein, dans le cas de la frigidité. Donc, il faut pouvoir étudier tout ce processus, toutes ces causes qui peuvent être soit organiques, soit psychologiques, etc. Bon, il peut y avoir aussi une mauvaise entente dans le couple, qui peut être passagère. Mais cela entraîne, au niveau de la relation, un manque de désir de l'autre. Et d'où une forme de frigidité. Et puis, il peut y avoir aussi le problème d'une libido en berne, pour diverses raisons qu'on vient d'aborder, hein, comme le fatigue, burn-out, dépression. Et puis, le problème de la ménopause, parfois des sécheresses vaginales, ou tout simplement, comme je disais, une baisse d'envie, tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont des causes qu'on peut rencontrer, qu'on rencontre très souvent. Bon, si cause organique, il faut bien entendu aller consulter un médecin. Donc le gynécologue va faire le bilan, on va s'apercevoir s'il y a une cause organique qui rentre en jeu ou non. À partir de ce moment-là, s'il y a une cause organique, bien sûr, le médecin va traiter. Là, je ne suis pas médecin, je tiens à le dire et à le répéter, je ne suis pas médecin, donc je ne soigne pas les causes organiques. Je peux venir en complément pour apporter un plus, un mieux-être, aider éventuellement à supporter un traitement, s'il est lourd, hein, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc voilà, moi je ne viens que, j'apporte des outils aux personnes qui ont des soucis, après à elles de savoir s'en servir. Voilà, je suis là pour apporter quelque chose, mais je ne remplace pas le médecin et la sophrologie ne remplace pas non plus tout ce qui est médical. Donc si par exemple on retrouve des causes de mauvaises relations intra-couple, Il faut commencer une sexothérapie éventuellement avec un sexologue, accompagné éventuellement, si la personne le souhaite, d'une sophrothérapie. Et là, c'est là que nous jouons notre rôle de sophrologue en parlant de sexologie. Ensuite, tout dépend du degré de frigidité. La frigidité est ressentie par la femme et par le couple. Parce qu'il y a dans la frigidité, comme dans tout problème sexuel, il y a aussi le problème du couple. Il n'y a pas que soi, avec nos ressentis et nos dysfonctionnements, il y a l'autre, comment il ressent aussi ce facteur de dysfonctionnement, etc. Donc, sexothérapie avec un sexologue et sophrothérapie avec une sophrothérapeute spécialisée en sexologie. L'un n'empêchant pas l'autre et le sophrologue n'empiétant pas sur la mission du sexologue. On est bien d'accord. Pour ce qui concerne la sophrologie, puisque moi je parle de sophrologie, je commence donc toujours par une anamnèse précise. Parfois les détails ne me sont livrés que plus tard d'ailleurs, parce que les gens ne se livrent pas tout de suite, même s'il y a un bon contact, ce qui arrive en général, mais petit à petit on me distille des informations, donc on arrive à bien cerner la personne, les problèmes, etc. Et puis, il y a aussi le mari ou le compagnon qui peut venir avec sa compagne. Et s'ils ont entrepris la démarche à deux, c'est encore mieux. Parce que dans ces cas-là, je reçois les deux ensemble et on peut parler du problème et de ce que ça peut avoir comme répercussion sur la vie du couple. Donc, après tout ça, j'établis un protocole par rapport au problème qui m'a été exposé.
D'accord.
Alors, soit je prends la personne seule, soit je peux prendre les deux. Après, c'est un choix. C'est à eux aussi de faire leur choix. Pourquoi pas l'un après l'autre? Et puis après, faire un rendez-vous à deux pour voir où ils en sont, etc., ce que donne la sophrothérapie. Voilà, faire le bilan. Je commence bien sûr par expliquer ce qu'est la sophrologie. La plupart quand même des gens qui viennent me voir ne savent pas toujours ce qu'est la sophrologie. Prennent conscience que c'est quelque chose qui va leur apporter du bien-être, mais considèrent ça souvent comme une méthode tout à fait simple de relaxation. Or, ça n'est pas une méthode que de relaxation. On passe par la relaxation pour obtenir un état de conscience modifié et pouvoir intégrer des techniques. Donc, je leur rappelle tout d'abord ce qu'est la sophrologie. Donc, suivant la définition du professeur Caicedo, qui est, comme tu le sais, comme je disais tout à l'heure, le professeur Caicedo, c'est donc le fondateur de la méthode de sophrologie caicédienne. C'est la science de la conscience et des valeurs de l'existence. Donc, c'est une école scientifique inspirée de la phénoménologie, c'est-à-dire la phénoménologie, c'est tout ce que le corps ressent, tous les messages que le corps peut envoyer, etc., et qui étudie la conscience. Et c'est donc une nouvelle profession clinique, et prophylactique qui se spécialise dans la conquête des valeurs de l'existence. Et en quelque sorte, on se réapproprie de cette façon son propre corps, son propre mental, sa propre façon de penser et ses propres valeurs. Donc on est de nouveau, je dirais, une unicité entre soi et soi. Moi, c'est comme ça que je conçois la sophro, c'est reprendre un équilibre entre divers morceaux qu'on a été, on se disperse beaucoup, mais on est quelque chose, on devrait avoir une unicité. Et la sophrologie nous permet de la retrouver. Et ça, au niveau sexologie, c'est très intéressant parce que justement, ça permet de reprendre conscience de soi, de son corps, des plaisirs que peuvent apporter notre corps et des plaisirs qu'on peut donner à l'autre.
Alors tout à fait, moi qui suis aussi sophrologue, Agnès, on en a discuté.
Voilà.
Effectivement, la sophrologie, c'est un peu reprendre conscience de son corps que l'on oublie souvent, on court après le métro, on court toute la
tout
journée.
À fait.
Et là, effectivement, c'est se réapproprier son corps, sa conscience. Et effectivement, je pense que la sexologie, les problèmes, ces dysfonctionnements, collent assez bien avec la sophrologie.
Complètement, justement. C'est pour ça que moi, je tiens absolument à établir une connexion entre sexologie et sophrologie, parce que c'est tout un apprentissage et un réapprentissage de son corps. C'est bien gentil, on prend soin de son corps, on va à la gym, on le malaxe dans tous les sens, etc. Mais tout ce qui est lâcher prise, tout ce qui est bien-être profond, parce que l'acte sexuel entre un homme et une femme, c'est quand même un partage, c'est un don de soi, c'est faire plaisir à l'autre. Hein. Donc il n'y a pas que soi, il y a aussi ce qu'on donne à l'autre et ce qu'on partage. Donc pour ça, c'est très important de pouvoir avoir une conscience de son corps et de ce qu'on peut faire avec et de ce qu'on peut obtenir de lui et aussi du corps de l'autre. Tout ça, bien sûr, avec une notion d'amour. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus dissocier l'acte sexuel et le sentiment amoureux qu'on peut avoir pour la personne. C'est, à mon avis, la seule façon qu'on a de réellement partager. Hein. Donc, j'explique un petit peu ce que c'est que la sophrologie, comme on vient de voir. Et ensuite, on débute un traitement avec l'accord du ou des deux personnes qui sont venues me voir. Donc, je commence par expliquer, comme je te disais, ce que c'est que la sophrologie. Ensuite, les séances débutent. En premier lieu, je fais toujours, tu connais bien ça, les trois techniques clés qui sont incontournables, puisqu'on commence toujours une séance de sophrologie par ces trois techniques, qui sont un relâchement musculaire de tout le corps, puis un sophro-déplacement du négatif, c'est-à-dire qu'on évacue dans chaque partie de son corps toutes les tensions, hein, toutes les tensions, qu'elles soient physiques, physiologiques, mentales, etc. On se débarrasse de tout, c'est symbolique peut-être, mais on peut y associer un geste de « je repose tout ce qui me dérange, j'évacue hein, » sur une inspiration, parce que j'ai oublié de dire, mais on va en certainement parler, que la respiration est aussi importante en sophrologie, hein, puisque tout ça, ça vient un petit peu du yoga, etc. Donc, respiration très importante, donc on évacue tout ce négatif sur une bonne expiration, et ensuite on fait soit une activation vitale, soit une harmonisation vitale, c'est-à-dire que on essaye de faire circuler une énergie soit harmonieuse, soit plus activante, entre guillemets, sur les organes vitaux de tout notre corps. Donc en sexologie, c'est très important. Donc ensuite... Et je dirais qu'il y a surtout, puisqu'on partage le corps, tu sais, en sophrologie, en zone, donc il y a surtout le premier système, c'est-à-dire tout ce qui fait partie du haut du corps, c'est-à-dire la tête, et donc l'organe vital, c'est le cerveau. Le cerveau qui est coordonnateur de beaucoup de choses, hein, et particulièrement du plaisir, etc. Et du cinquième système, qui est tout le bas du corps, donc l'appareil génital, tout ce qui est au niveau des rapports sexuels. Donc tous les muscles du bas du corps, les muscles fessiers, les muscles pelviens, fessiers, les muscles anneaux, les muscles des cuisses, tout ça est très important. Et puis donc je parlais de la respiration. Donc il y a également la sophro-respiration synchronique, hein, comme je te disais tout à l'heure, la respiration est très importante en sophrologie. Donc, elle est abordée aussi pour prendre conscience que la respiration peut être en accord avec le déclenchement du relâchement du corps et de la libre circulation des énergies. Et donc, de ce fameux lâcher-prise dont je parlais tout à l'heure, qui permet aussi au mental de se laisser aller et de laisser venir le désir et donc le plaisir. Bon, et puis après, petit à petit, nous aborderons d'autres techniques plus précises, comme les sophro-évocations, c'est-à-dire, par exemple, se représenter son corps comme corps sexué, avec érotisation du corps, et puis aussi les focalisations sur le schéma corporel, hein, puisque le schéma corporel est très important en sophrologie, et plus précisément, bien sûr, sur les zones érogènes, le schéma génital, le périnée, etc., tout ce qui touche aux relations sexuelles. Alors, toutes les parties du corps qui rentrent dans le jeu des relations sexuelles et dont l'image doit être dédramatisée chez certaines femmes atteintes donc de cette frigidité. Alors, pour le travail en couple également, se représenter les corps des deux partenaires et en visualisant certaines situations pour essayer de démobiliser certains gestes de défense de la partenaire qui est sur le qui-vive la plupart du temps. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup, parfois, enfin, oui, souvent des craintes. Hein, des craintes de ne pas être à la hauteur, des craintes de ne pas éprouver du plaisir. Donc, ça bloque la possibilité d'en avoir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et tout ça, bah, petit à petit, ça s'affine, ça se travaille. Donc, on arrive quand même à des résultats. Hein, rien n'est fini, jamais, hein, loin de là. Hein, il faut donner de l'espoir. Tout est récupérable. Bon, il y a aussi des techniques de positivation adaptées, bien sûr, à chaque cas. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail de la globalité d'une approche sophrologique adaptée à une rééducation de ce type. Il faut compter une dizaine de séances.
D'accord.
Hein, minimum.
C'était une minimum, question que j'ai posée.
Avant qu'une certaine amélioration apparaisse. Hein.
Bon, et donc, puis environ 10 séances, mais tu personnalises.
Hein, donc, absolument, c'est adaptable à chaque cas. Il y a des gens qui vont faire des progrès énormes, qui vont trouver que tout de suite, ils retrouvent un dialogue couple, etc. Alors que d'autres, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, on s'adapte. Alors, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on peut faire. Bon, et puis, la personne qui vient me consulter ou le couple qui vient me consulter me met aussi sur la voie. Hein. Il y a des choses qui vont leur paraître faciles, d'autres pas faciles, des choses qui vont leur plaire, pas leur plaire. Donc, tout ça, c'est adaptable. Donc, il faut aussi, qu'est-ce que j'allais dire, qu'une amélioration apparaisse au bout d'un certain temps. Hein, parce que sinon, effectivement, c'est un petit peu décourageant. Et il faut bien entendu que la personne qui vient me consulter, comme je disais, seul ou en couple, joue le jeu et s'entraîne. Parce qu'il y a des exercices à faire en couple. Sinon, les résultats escomptés, bien sûr, ne seront pas au rendez-vous. Et dans ces conditions, ça serait dommage.
D'accord. Alors, à la fin, généralement, ou un certain temps, donc tu constates une amélioration et normalement, ce symptôme disparaît.
C'est-à-dire que c'est le couple hein, qui me dit que ça disparaît. D'accord. C'est pas moi qui constate, sont eux.
D'accord, mais on peut se débarrasser complètement.
Oui. Le tout, c'est qu'il faut se donner le temps. Moi, je le dis, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc il faut savoir être patient. Voilà, hein, c'est comme tout, il faut savoir laisser du temps au temps, comme on dit. C'est peut-être une maxime un petit peu éculée, mais bon, c'est pourtant vrai. Il faut apprendre la patience, et je sais qu'on n'est pas dans une société où on nous apprend à avoir de la patience, il faudrait obtenir tout de suite, non. Le corps, c'est comme le reste, ça aussi, ça, voilà. On n'est pas toujours maître de son corps.
Alors, oui. Alors, Agnès, justement, je pense que là, on a pas mal parlé de la frigidité.
Oui. Alors,
tu nous as parlé tout à l'heure d'un deuxième symptôme ou d'une deuxième dysfonction importante chez les femmes, qu'on rencontre, donc c'est important, c'est la dyspareunie.
Oui.
Alors là, voilà, c'est quelque chose de moins connu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr. Alors, la dyspareunie, je le rencontre aussi chez certaines femmes qui viennent me voir. Ce sont donc des douleurs au moment du rapport sexuel. Alors, ça peut être une dyspareunie d'introduction. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, hein, au moment où justement l'homme va pénétrer sa compagne, donc ça peut créer des douleurs, ou bien une dyspareunie profonde. C'est-à-dire là, c'est comme son nom l'indique aussi, c'est facile à comprendre, c'est lorsque la pénétration est beaucoup plus profonde que la femme peut éprouver des douleurs. Alors, comme pour tout à l'heure, on va voir les diverses causes qui peuvent être rencontrées. Alors, il faut, comme tout à l'heure, exclure toute cause organique, sachant que pour 60% des femmes, les dyspareunies sont dues à des causes organiques pour ce qui concerne les dyspareunies profondes. Pas celles d'introduction, mais les dyspareunies profondes. Alors, ce peut être des lésions, vulvo-vaginales, des mycoses récidivantes, hein, ce qu'on rencontre très souvent, malheureusement, des kystes de l'ovaire, un petit peu plus rares, mais qu'on rencontre aussi, des endométrioses, des infections du col utérin, des déchirures périnéales, enfin, toutes sortes de causes organiques qu'on peut rencontrer. Bon, alors, une fois qu'on a écarté ces causes, d'abord, c'est déjà rassurant, il y a pas mal de causes organiques qui peuvent être mises de côté, et il y existe aussi des conflits interpersonnels ou de couple. Donc ça, c'est aussi, il faut pouvoir mettre un nom sur toutes ces choses. D'où parfois des dyspareunies qu'on appelle des dyspareunies prétextes. Parce que justement, ça ne va pas au niveau du couple, donc on prend le prétexte d'avoir des douleurs pour éviter d'avoir des rapports sexuels. D'où forcément un déséquilibre au niveau du couple si l'homme est assez demandeur et que la femme prend toujours un prétexte de douleur pour éviter les relations sexuelles. En tout état de fait, après avoir franchi cette étape de recherche de la cause organique et après l'avoir rejetée, la personne concernée ou le couple peut envisager une sexothérapie avec un sexologue accompagné d'une sophrothérapie. Il va de soi que même pour une raison organique, la femme peut très bien envisager de suivre une sophrothérapie pour la soulager. Comme je disais tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre. Je n'empiète pas sur le domaine du médecin, loin de là. Au contraire, je pense que je peux apporter un plus parce que je fais des choses différentes. Voilà, qui s'adresse à une autre façon d'aborder les choses. Et voilà. Alors, dans ces conditions, nous essaierons de calmer la crainte de la douleur parce que c'est ça aussi. J'ai mal. Mais une fois que la douleur semble avoir disparu, je peux avoir peur d'avoir mal. Donc, Et le problème, on tourne un peu, on se mord la queue un petit peu là. Donc, il peut ensuite exister une ambivalence en sexologie entre plaisir et douleur. Donc ça aussi, ça c'est peut-être parfois une psychothérapie à envisager où le sexologue pourra aider la personne à faire un petit peu la différence. Donc voilà. Alors tout d'abord, comme pour la frigidité qu'on a vu tout à l'heure, il y a ces trois fameuses techniques clés, relâchement musculaire, évacuation du négatif, une sophro-harmonisation des organes vitaux, tête et cerveau toujours. De toute façon, tête et cerveau dans ces problèmes de dysfonctionnement sexologique, c'est toujours intéressant, hein, puisqu'on s'adresse aux deux parties principales de l'individu. Et le cinquième système, donc le bas du corps, le système génital. Sachant que les dyspareunies peuvent également entraîner une anorgasmie. C'est donc qu'on n'y a plus d'orgasme. Hein. Forcément, on a peur d'avoir mal, on a mal, on a des rapports quand même, mais finalement, on a tellement peur d'avoir mal ou on a tellement vraiment mal que bah, on ne peut pas profiter de ce bon moment à deux et donc il n'y a pas d'orgasme. Donc, il y a aussi la vivance du schéma corporel, comme on disait, très important, réapprendre son corps. J'ai des schémas également de la physiologie féminine et masculine. Donc, on peut réapprendre quelles sont les parties du corps touchées, etc., comment ça fonctionne. Donc, tout ça aussi, ça dédramatise les situations. Si on connaît mieux son corps, on peut mieux l'apprivoiser. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir mieux se connaître à ce niveau-là, au niveau simplement physiologique. Alors puis, il y a des techniques, bien sûr, de sophromnésie, c'est-à-dire qu'on va chercher, si cela est possible, des moments dans le passé où, au moment des rapports sexuels, il n'y avait pas de douleur, essayer de se les rappeler, de rappeler le plaisir qu'on a pu avoir, etc. Tout ça dans l'état de sophroliminal, de conscience modifiée, donc qui aide à percevoir en se projetant. En fait, on se sert des techniques du passé pour se projeter dans l'avenir. Donc, c'est intéressant de pouvoir se rappeler des bons souvenirs, sans douleur, avec plaisir, et de pouvoir se dire que c'est possible, dans un avenir plus ou moins proche, de pouvoir retrouver ces sensations bénéfiques. Donc, je me sers des techniques du passé et des techniques de futurisation, c'est-à-dire des projections dans l'avenir. Il y a les protocoles aussi sur la douleur. Puisque quand il y a douleur, on adapte un protocole de douleur qu'on connaît bien, toi et moi. Et donc, en sexologie, on peut l'adapter également à ça. Bon, chaque cas est à prendre, bien sûr, en compte individuellement. Donc, chaque protocole va être adapté.
En général, Agnès, oui. Combien de séances pour commencer à... Ouais. à sentir que ça va mieux quand même?
Écoute, tout dépend aussi des patients. Je pense qu'il y a des patients qui vont aborder ça plus facilement que d'autres et qui vont en plus se jeter, si je puis dire, à corps perdu, là c'est le moment de le dire, dans la bataille. Donc, qui vont bien intégrer les choses, se donner à fond, refaire leurs exercices chez eux, participer, etc. Donc, ça peut aller plus ou moins vite suivant les personnes. Moi, je dis qu'il faut un minimum de 10 séances. Comme je disais tout à l'heure pour la frigidité, les dyspareunies, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, aider le corps à se reprendre, à rééprouver du plaisir. Bon, il y a des tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, je te dis, ça va être peut-être que 6, ça va suffire, mais 6, ça me paraît juste déjà pour aborder la sophrologie, savoir bien respirer, savoir bien lâcher prise, etc. Donc, il y a déjà tout un apprentissage d'une certaine technicité de la sophrologie. Puis après, il y a vraiment les techniques qui sont vraiment pour le dysfonctionnement lui-même. Donc, je dirais que 10, c'est minimum.
D'accord, Agnès. Voilà. Alors, je crois qu'on a parlé des femmes, frigidité, dyspareunie. Alors Agnès, pour les hommes, en introduction, tu nous disais que les deux principaux dysfonctions étaient l'impuissance et l'éjaculation précoce.
Oui, tout à fait.
Alors justement, est-ce que tu peux nous faire un petit peu comme les femmes, là, nous expliquer un petit peu de ce qu'il en est?
Bien sûr, je vais pouvoir parler de ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire aussi que la sophrologie n'est pas faite que pour les femmes. Je n'ai pas dans ma patientèle que des femmes. J'ai aussi des hommes, que ça soit en sophrologie généraliste ou en sophrologie spécialisée en sexologie. Donc, il faut rassurer aussi les hommes de ce côté-là, oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça que, qui sont considérées uniquement pour les femmes. Alors que la sophro, si j'ai un homme qui a des soucis à son bureau, qui est en burn-out ou quoi que ce soit, il vient me voir aussi, hein. Il m'expose ses problèmes et les techniques, elles ne sont pas que pour un sexe, elles sont pour les deux sexes.
Ouais, moi je rassure aussi nos auditeurs, j'ai aussi des hommes, un peu moins que des femmes, mais j'ai des hommes qui ont notamment des problèmes de burn-out et, et de transition professionnelle.
Voilà, tout à fait. On a chacun nos soucis de vie.
Qui doivent lâcher un boulot pour en prendre un autre, déménager et qui ont des soucis
d'ordre personnel,
de confiance en soi, de
fatigue,
lâcher prise,
de stress.
Je dois déménager, et effectivement, on retrouve des soucis qui sont des vrais soucis. Hein, un déménagement géographique, ce n'est jamais agréable à vivre.
Il y a des sportifs, moi j'ai des sportifs aussi que j'aide à reprendre confiance, à visualiser leur victoire, etc. Et on sait, tel que nous l'a dit déjà Yannick Noack, la sophrologie, par exemple, au tennis, l'a beaucoup aidé.
Tout à fait. Donc, Noah était, oui, moi aussi je savais que
Noah
était.
Donc j'ai une petite fille dont le père est venu me voir en me disant voilà, ma fille fait des tournois d'escrime, j'aimerais qu'elle puisse avoir du recul, qu'elle puisse savoir gérer ses émotions, etc. Donc voilà, j'ai de tout. Hein. Donc les hommes surtout qui n'hésitent pas à aller voir une ou un sophrologue, l'un ou l'autre. Hein. C'est pareil, il y a des sophrologues hommes et des sophrologues femmes. C'est pas que pour les femmes. Donc j'en reviens à notre sujet. Donc chez l'homme, je rencontre alors ce que j'ai le plus rencontré jusqu'à présent, c'est effectivement l'éjaculation précoce et l'impuissance, dysfonctionnements qui sont assez connus des sexologues d'ailleurs. Alors qu'est-ce que l'éjaculation précoce ? Bien, alors c'est l'éjaculation que l'homme ne peut retenir après la pénétration de sa partenaire et sans contrôle volontaire possible. Alors, dans ces conditions, c'est très court. Hein, et parfois, ça peut même être avant la pénétration. Il ne peut absolument pas se retenir et c'est bien involontaire de sa part. Alors, les causes organiques sont rares, sont rarement la cause de l'éjaculation précoce. Toutefois, il faut quand même être très vigilant et s'adresser quand même à son médecin pour savoir s'il n'y aurait pas une cause organique à déceler. Donc, maintenant, il peut y avoir aussi comme autre cause l'hypersensibilité du gland, les causes d'ordre psychologique dues à de mauvaises conditions d'apprentissage lorsqu'on est adolescent et qu'on commence à avoir des désirs, à vouloir les assouvir, etc. Donc, ça peut être dû à ça. Hein, on est très pressé, on a un manque de confiance en soi, de contrôle de son corps, certaines peurs. Donc, l'éjaculation précoce peut s'installer. Alors, quand je dis elle peut s'installer, ça veut dire qu'elle peut être primaire, comme on l'a vu pour la frigidité, soit secondaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une éjaculation précoce dite primaire, c'est-à-dire depuis les premiers rapports sexuels, depuis l'adolescence, la connaissance de l'acte, etc. Soit secondaire, c'est-à-dire qu'après avoir eu une vie sexuelle tout à fait épanouissante, on se met à avoir des éjaculations précoces. Alors, que faire ? Bien, soit entreprendre une sexothérapie éventuelle avec un sexologue et en plus une sophrothérapie avec quelqu'un qui est spécialisé en sexologie. Alors, les traitements qui sont hors sophro, je dirais, les traitements qui sont ce n'est pas le sophrologue qui va adapter ce genre de thérapie. Il y a donc certains médicaments comme des antidépresseurs, des anxiolytiques, des neuroleptiques, mais il y a aussi avec ce genre de produits des baisses de libido. Donc il faut y faire attention, il ne faut pas les employer trop, je dirais, sauf s'il y a certains antidépresseurs qui sont des toniques, je dirais. Donc là, on peut les employer, mais ça, c'est pareil, c'est à voir avec son médecin. Hein. Donc il y a aussi les anesthésiques locaux, pour justement, s'il y a une trop grande sensibilité du gland, que cette sensibilité soit un petit peu apaisée et que donc l'acte sexuel puisse perdurer un petit peu. Il y a des auto-injections caverneuses, alors là, c'est encore autre chose, c'est aussi à apprendre avec son médecin. Il y a des techniques comme le stop and go de Siemens, que maintenant, je pense, on en parle assez souvent. Il y a le squeeze de Master & Johnson, donc on verra ça, j'en expliquerai un petit peu. Alors, d'explication du stop and go, c'est quand... alors là, il faut bien sûr avoir aussi, c'est pareil, une compagne qui soit très participante. Hein. Mm-hmm. C'est donc quand on commence l'acte sexuel, il y a donc ces va-et-vient, etc. Donc, quand on sent qu'on va aborder un moment un petit peu, voilà, où on est prêt à avoir du plaisir, il faut savoir s'arrêter. On laisse passer un petit temps et on reprend. Et petit à petit, on va essayer de faire durer ces allers-retours, je dirais. On va être un petit peu cru, mais c'est pas grave, hein, il faut que les gens comprennent. Puis bon, les tabous, il faut les faire tomber un petit peu aussi. Donc, il faut, le va-et-vient doit être stoppé, puis repris, stoppé, puis repris. Hein, d'accord ? Et puis alors, il y a la méthode du squeeze, qui est de serrer très fortement la base du gland au moment où justement... Enfin, un peu avant du moment où l'homme va sentir que l'éjaculation va se faire. Hein, donc ça, c'est très, je dirais, c'est très fin comme ressenti. Il faut vraiment être très concentré sur le moment où il faut. Donc c'est aussi un apprentissage à deux, hein, ces méthodes. Mais c'est bien aussi que la compagne puisse participer et voilà, que l'homme ait en totale confiance aussi en sa compagne. Ça, ce sont les traitements entre guillemets hors sophrologie. Maintenant, les traitements entre guillemets avec sophrologie, il y a toutes les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, donc oui. Ces trois techniques clés, je ne reprends pas. Il y a donc, ce qui est très important, le relâchement musculaire sur tout le corps. Là, il faut absolument que le lâcher prise ait lieu. Il y a cette fameuse respiration dont on parlait tout à l'heure et qu'on appelle la sophro-respiration synchronique, justement adapté avec les méthodes du stop and go et du squeeze pour pouvoir justement j'inspire, je fais un va ou un vient, j'arrête quelques secondes, je reprends, j'expire. Tout ça c'est à adapter, donc c'est à travailler à deux. Elle s'offre au déplacement du négatif, hein, évacuer toutes les tensions, ça va avec le relâchement musculaire, et à la sophro-harmonisation. Hein, pour harmoniser les organes vitaux. Il y a la sophro-acceptation future, c'est-à-dire se replacer dans la situation future, mais qui va être réussie. Donc, c'est une projection dans le futur positive. Hein, donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on la fait, on s'entraîne à la faire tout seul et puis on s'entraîne à la faire à deux. Et petit à petit, on finit par intégrer tellement bien la technique que ça vient, le plaisir arrive et sans éjaculation précoce. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a la sophro-correction sérielle aussi, qui est très intéressante, on verra peut-être plus tard. En tout cas, à chaque cas, il y a une prise en charge du sophrologue ou de la sophrologue qui est adaptée. Donc c'est personnalisé, c'est suivant ce qui réussit, ce qui marche pas, comment on va faire, ce qu'on peut trouver, ce qui va leur convenir, etc. Ce qui est confortable aussi pour les deux, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit confortable et pas l'autre. Donc il faut trouver une harmonie. Alors bon, tout ça, il faut bien répéter que c'est quelque chose qui est irréversible. Hein.
L'éjaculation précoce. Et à nouveau, la question, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on arrive à se débarrasser
de... Garder espoir, voilà. Il n'y a pas de situation désespérée. Hein. Donc le tout, c'est de mettre toutes les chances de son côté.
D'accord. Et alors, dans ces protocoles, justement, sur ce symptôme... Mm-hmm. Il faut compter à peu près combien de séances?
Je dirais comme tout à l'heure, comme quand les deux premiers dysfonctionnements, une bonne dizaine de séances. Hein.
D'accord.
Après, ça va dépendre, c'est pareil, de chacun.
Voilà, donc en fait, tu mets les trois techniques clés de la sophrologie et puis derrière...
Et puis des techniques adaptées à chaque cas.
Voilà, après. En fonction et tu adaptes. Voilà. Après, je suppose, chaque fois que les gens arrivent, ils te...
On fait un débriefing quand on commence, avant de commencer la séance... si c'est la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on se voit, à chaque fois je demande comment ça s'est passé, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont trouvé des différences, est-ce que ça s'est mieux passé, est-ce que l'un comme l'autre sont contents du résultat, et là on voit, on adapte. Hein, et donc éventuellement, pourquoi pas, je refais un autre protocole, hein, on change de technique, c'est pas grave ça. La sophrologie et le sophrologue doivent être adaptables. Hein.
D'accord, là c'est tout à fait personnalisé.
Ah, complètement, hein, c'est pas les patients qui vont s'adapter à la sophrologie, c'est la sophrologie et le sophrologue qui s'adaptent. Hein, donc voilà, et ça il faut bien le dire aussi parce que c'est important. Hein, c'est pas un truc qu'on va dérouler à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont communes, parce que ça correspond à, voilà, un état de fait qui est là et que à telle chose correspond telle méthode. Mais après, on adapte aussi. Hein, donc voilà, c'est comme tout. Il y a certains médicaments qui sont bons pour tout le monde. Et puis après, il y a des, on fait de l'affinage et chaque médicament, après, trouve le cas. Voilà. Alors, maintenant, pour l'impuissance.
Voilà. Alors, Agnès, passons au quatrième volet. Mm-hmm. Le dernier, hein, oui. Puisqu'on oui, avait décidé d'en lister quatre. Mm-hmm. Donc, l'impuissance.
Voilà. Alors, l'impuissance. Qu'est-ce que l'impuissance? Alors, je reprends une définition pour chaque cas, parce que je trouve que, quand même, c'est intéressant de pouvoir définir les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, c'est l'impossibilité d'obtenir une érection suffisamment rigide pour permettre la pénétration de sa partenaire. Hein? C'est également l'impossibilité de maintenir une érection rigide et stable lors des changements de position ou en cas de pénétration. Parce qu'on peut très bien avoir une érection, puis qu'au moment de la pénétration, il n'y en a plus, ou bien on change de position et pouf, il n'y en a plus non plus. Donc ça peut aller de l'absence totale d'érection à l'érection, comme j'appelle ça, capricieuse ou instable. Voilà, donc je pense avoir été claire. Donc les causes maintenant. Pour les autres cas, on reprend les causes qui peuvent être diverses. Donc, ça peut être des causes toxiques, tabac, alcool, drogue, métaboliques. Hein, ça peut être lié à un diabète, à une obésité, à un cholestérol trop haut, aux triglycérides, aux cirrhoses du foie. Enfin bon, bref, ça c'est pareil. C'est au médecin de faire un bilan et de voir ce qui ne va pas au niveau organique. Alors, il y a des causes iatrogènes aussi. Alors, ça, ce sont des troubles qui sont provoqués par un traitement médical ou par la prise d'un médicament, comme par exemple certains antidépresseurs, certains anxiolytiques, certains antihypertenseurs, certaines hormones. Ça peut provoquer éventuellement ce genre de dysfonctionnement. Il peut y avoir des causes vasculaires également. Hein, par exemple, à partir de plus de 40 ans, avec des facteurs de risques artériels, on peut se retrouver avec certaines impuissances. Voilà. Il y a aussi des causes hormonales avec chute de libido, atrophie des organes sexuels, bon, et causes neurologiques, par exemple, sclérose en plaques, maladie de Parkinson ou d'autres beaucoup plus importantes que certaines, telles que la trauma de la moelle épinière ou fracture du bassin. Mais ça, bon. Également, médecin. Hein. Alors, les causes psychologiques aussi, hein, qui sont très importantes dans ce cas d'impuissance, et les plus fréquentes. Qu'on peut retrouver, c'est bien sûr le ratage des premières expériences, comme on le voyait pour l'éjaculation. Oui, ça peut être effectivement, on démarre mal sa vie sexuelle, et puis on perd confiance en soi, et donc les choses perdurent, et puis on n'a rien fait pendant un certain temps, et donc on se retrouve à un moment de sa vie où on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Ma compagne n'est pas satisfaite, il faut que je me prenne en charge. Il y a aussi le problème d'une éducation trop rigide, parfois. Ça peut être aussi de l'anxiété, ça peut être certaines névroses, des conflits, conflits avec sa famille, conflits avec des amis, conflits au bureau, conflits avec soi-même. Hein, ça aussi, ça peut se rencontrer. Des peurs diverses, surmenage, burn-out, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Ça peut être aussi tout simplement l'usure du couple, avec un manque de désir de sa partenaire. Et ça peut être aussi... Ça arrive, une partenaire qui n'est pas suffisamment participante. Donc, tout ça, ça donne quoi? Bah, ça donne quelqu'un qui veut remédier à son dysfonctionnement. Alors, il y a des traitements, bien sûr, hors sophrologie. Hein, préventivement, éviter ou supprimer le tabac, l'alcool, enfin, tout ce qui peut provoquer l'impuissance, si on les consomme à haute dose. Les substances illicites, bien sûr, ou des médicaments qui inhibent l'érection. Alors, ce qu'il faut faire, enfin ce qui est souhaitable de faire, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un entretien régulier de son activité sexuelle. Hein. Ça paraît bête à dire, mais c'est quand même ce qui fait que la machine fonctionne bien, c'est aussi le fait de l'entraîner. Donc, il y a soit des rapports réguliers avec sa compagne, soit des jeux sexuels ou simplement la masturbation, hein, qui peut permettre d'entraîner cette érection pour que justement la machine, le moule ne soit pas cassé, comme on dit. Alors, parler aussi, c'est très important quand on a une impuissance qui est due à des problèmes psychologiques. Alors, aller voir un psychologue, ou un psychothérapeute, et puis un sexologue éventuellement, et puis faire appel éventuellement à un sophrologue qui se spécialisait en sexologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Suivant la cause, si c'est une cause endocrinienne par exemple, hein, donc cause organique, il y a aussi des injections intramusculaires. Bon, ça c'est pareil, c'est pour le médecin. Les autres causes, il va y avoir des alpha-bloquants, des auto-injections pour cause vasculaire, du Viagra, mais ça faut faire très attention parce que c'est pareil, il faut que ça soit donné
sous contrôle.
Voilà, sous contrôle médical. Et puis alors, pour les causes psychologiques, ben je le disais, la relaxation, tout ce qui touche à la sophrologie, et puis en dépression sévère, des antidépresseurs, sérotoninergiques, pour que justement la baisse de libido ne se fasse pas. Alors, avant tout, comme je disais tout à l'heure, être patient. Hein, les choses ne rentrent pas dans l'ordre comme par magie. S'assurer de la parfaite coopération de sa partenaire, ça c'est une chose indispensable. Ça on l'a dit pour les autres dysfonctionnements. Donc on reprend, là ce sont les techniques de base qu'on a vues tout à l'heure. On a dit que les protocoles étaient adaptés mais qu'il y avait des techniques qui étaient incontournables. Donc on reprend, relâchement du corps, évacuation du négatif et puis une activation, une harmonisation des organes vitaux. Technique de focalisation, auto-érotisation de son corps, du corps de la partenaire, de la sophrostimulation, donc on parlait de la masturbation ou des caresses, etc., soit seul, soit avec sa compagne, la vivance du schéma corporel, particulièrement vivance du schéma génital, hein, prise de conscience des organes sexuels et des zones érogènes. Alors, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est le sunset focus. C'est donc les deux personnes, je pense que tu connais aussi la technique, sont les deux personnes qui se retrouvent nues, l'une avec l'autre, et chacune son tour caresse l'autre en se concentrant, sauf les seins et les parties génitales. Voilà. Et on se concentre sur le ressenti que l'on a du corps de l'autre. Alors on peut bien sûr, il n'y a pas que le toucher, hein, on peut très bien ressentir avec son odorat la peau de l'autre. On peut ne serait-ce que le regarder, prendre conscience de son schéma corporel, de la forme de son corps, de son volume. Hein. Il y a aussi l'ouïe. L'ouïe peut te servir dans un rapport sexuel. Il y a aussi les bruits du cœur, les bruits de la main qui caresse la peau de l'autre, le bruit de la main dans les cheveux. Enfin, bon, tout ce qui est sensitif est très important. Réapprendre à écouter, à regarder, à sentir, à voir. Hein, tout ça, ce sont les cinq sens. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Donc, il y a aussi des techniques de futurisation. Hein, réapprendre aussi à pouvoir réussir. Techniques de prétérisation, ça a été réussi dans le passé. Donc, on peut réapprendre et se revoir réussir la chose dans le futur. La sophrostimulation vitale, hein, bien sûr, qui est importante aussi, comme son nom l'indique, stimuler toutes les parties, les zones érogènes, etc. Le tout pour imaginer l'autre, pour imaginer les caresses de l'autre, démobiliser les réactions de défense, et puis aussi les postures qui sont intéressantes, et puis il y a la sensibilisation tactile dont on parlait. Bon, il y a des techniques aussi de comment on appelle ça, d'autoscopique du sexe, c'est-à-dire, alors ça, s'il faut, c'est pour ça que j'ai des schémas aussi, c'est rentrer visuellement, mentalement, dans le sexe de l'autre, voir comment il fonctionne, comment est sa peau, etc. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des techniques qu'on adapte à chaque cas. Bon, et puis stimulation du corps en général, bon, le sunset focus dont j'ai parlé. Et puis voilà, il y a certaines postures aussi qui favorisent l'acte sexuel, la pénétration, l'érection, telles que les postures qu'on appelle postures de l'Arétin et d'Andromaque. Bon là, il suffit d'aller voir quelques petites iconographies et puis on tout de suite savoir de quoi il s'agit. Hein. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu le tour là des quatre problèmes de dysfonctionnement rencontrés pour l'instant à mon cabinet. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de...
Non, par contre, voilà. Je ne t'ai pas posé la question,
oui.
C'est concernant ce quatrième cas.
Oui.
Est-ce qu'on s'en débarrasse aussi?
Oui.
Rassure-nous.
Oui, on s'en débarrasse. Le tout, c'est pareil. Je me répète peut-être, mais patience, patience, patience. Voilà.
D'accord.
hein, et puis jouer le jeu.
Voilà. D'accord, mais ce qui est très positif, c'est que, voilà, dans tout ce qu'on a vu...
Voilà, et réapprendre son propre bonheur et le bonheur de l'autre.
D'accord, hein. Et effectivement, on peut remener...
Une vie sexuelle tout à fait satisfaisante. Hein. Bon, après, tout dépend de son âge aussi. On n'a pas les mêmes performances, je dirais, sexuelles à 60 ou 65 ans, bien que, hein, moi, j'ai des cas où des hommes et des femmes qui ont une vie sexuelle à 60 ans et après, qui est tout à fait épanouissante. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Le tout, c'est de se donner les moyens.
Voilà. Voilà. Alors, Agnès, je te propose de... On va faire une pause. Mm-hmm. On va laisser quelques minutes aux auditeurs pour tout simplement parce que nous allons faire une séance de sophrologie adaptée donc à ces symptômes hein, de sexologie et on va donc laisser les auditeurs s'installer
tranquillement
ou enregistrer pour l'écouter plus tard.
Pas de problème.
Et donc notre objectif là va être de faire une technique dans laquelle effectivement nous allons faire donc les trois techniques clés dont tu parlais. Alors par contre nous allons les faire, ces trois techniques, ce qu'on appelle en abrégé. Oui. Donc elles vont être regroupées dans une technique, la regrouper en 3-4 minutes et derrière hein, nous entamerons ce qu'on appelle une technique adaptée
et qui peut être faite pour les quatre cas dont j'ai parlé.
Oui, alors voilà, on a choisi.
J'ai essayé de trouver une technique. J'ai adapté plusieurs techniques pour n'en faire qu'une, une sorte de mini protocole pour que justement on puisse les adapter aux quatre cas.
Voilà, je sais que quand je t'ai demandé ça, c'était difficile parce qu'effectivement l'objectif était de pas forcément focaliser sur un des quatre symptômes. Mais de faire quelque chose. Donc, je sais que tu nous as fait, et c'est vraiment gentil, je sais que tu as travaillé vraiment quelque chose de personnalisé pour l'émission.
Voilà.
Donc, quelque chose qui est adapté, que tu n'as encore pas fait dans ton cabinet. Hein. Voilà, donc merci Agnès pour le travail que tu as fait.
Franchement, c'est tellement intéressant aussi. Et puis, pouvoir apporter un peu de mieux-être à chacun, je trouve que c'est hyper important. C'est ce pourquoi aussi j'ai choisi la sophrologie.
Voilà. Alors, avant d'entamer cette séance, quelques mots pour nos auditeurs. Ça se passe comment? On est debout, on est assis. Est-ce que là, on peut quand même détailler? Parce que tout à l'heure, tu parlais de premier niveau, premier système, cinquième système.
Alors, tout dépend. Tout dépend comment je vais commencer les techniques. Ça peut être debout ou assis. Hein. C'est pas couché. Rarement, en sophrologie, on se couche de toute façon. Ça, c'est clair. On est rarement allongé. Dans les années 60, au début de la sophrologie, on faisait les pratiques comme ça. Mais maintenant, non. Donc, ça sera soit debout, soit assis.
D'accord.
Et donc, après, les personnes faisant leur propre technique chez eux, avec mes enregistrements, après, par exemple, s'il s'agit du 107 focus, effectivement, il faut être nu et allongé. Donc, voilà.
Bon, là, on n'a pas choisi ça.
Non, on n'a pas choisi ça. Et le 107 focus n'est pas une technique sophrologique.
D'accord.
Hein.
Donc là, on va se contenter de faire asseoir nos auditeurs.
Complètement.
Avec deux positions, une au fond du fauteuil.
Oui.
Et une où on va être un petit peu en avant dans le fauteuil. Mm-hmm. Voilà, ce sera bien.
Très bien,
voilà.
pas de souci.
Premier système qui correspond à la tête.
Oui, premier système, c'est tout ce qui est visage, tête.
Voilà.
Et puis le cinquième système, ça sera toute la partie inférieure du corps.
Voilà,
donc
à
partir du bas-ventre.
Qui est quand même les deux systèmes importants dont toi, tu as l'habitude, effectivement.
Voilà, tout à fait, hein, puisque le cerveau, quand même, commande nos désirs, etc., notre plaisir, et que le système génital, bien entendu, beaucoup aussi. Donc,
voilà.
Donc on s'intéressera à ces deux parties du corps.
Voilà, écoute Agnès, on va laisser donc là nos quelques minutes,
voilà,
le temps aussi nous de boire un verre tranquillement, et on retrouve nos auditeurs dans quelques minutes, et voilà, pour enregistrer ou écouter la séance. Voilà. vous vous installez confortablement dans votre position de confort, en posture de relâchement au fond du siège, et vous fermez les yeux pour vous isoler du monde extérieur. Prenez conscience de votre corps assis dans la chaise. Vous sentez vos vêtements sur la peau. Et vous prenez conscience de votre corps ainsi dans la chaise. Votre corps en train de se détendre. Concentrez-vous sur votre premier système, votre front, votre visage, votre crâne en train de se détendre. Et vous prenez conscience de ce premier système détendu. Et vous laissez glisser la détente au niveau de votre second système, votre cou, votre nuque. Vos épaules se détendent, l'extérieur de vos bras, vos avant-bras, et la détente se prolonge jusqu'au bout des doigts. Et vous prenez conscience de votre deuxième système ainsi détendu. Votre respiration est déjà plus calme. Concentrez-vous à présent sur votre sternum, votre cage thoracique. Prenez conscience de votre troisième système ainsi relâché. Et à présent, je vous propose de laisser glisser la détente un peu plus bas au niveau de votre quatrième système, la région abdominale. Et je vous propose de vous concentrer sur votre respiration qui est à présent abdominale. Sentez votre ventre qui se soulève au gré de votre respiration. Et vous prenez conscience de la forme de votre quatrième système ainsi détendu. Et tout doucement, la détente se prolonge et elle glisse. Et elle arrive à votre cinquième système, la région pelvienne. Relâchez vos jambes, vos mollets. Relâchez tout ce cinquième système jusqu'au bout des pieds. Et à présent, je vais vous demander de vous concentrez sur l'ensemble de votre corps, ce que nous appelons votre méga-système. Et vous vivez votre corps, tout votre corps, sans tension. Et vous prenez conscience de la détente globale de tout votre corps, de son équilibre, de sa forme, de votre respiration, la présence de tout votre corps dans votre conscience. Ce corps sans tension. Et vous allez à présent pratiquer un sophro-déplacement du négatif, cette deuxième technique clé. Et pour cela, je vous invite à inspirer, puis expulser l'air, puis inspirer à nouveau profondément, rétention de l'air. Vous mettez les mains derrière la tête en même temps. Vous tendez tout votre corps à la limite du confortable. Vous prenez conscience ainsi des zones de tension. Et puis, vous expulsez l'air. Nous allons refaire l'exercice une deuxième fois. Vous expulsez l'air. Vous inspirez. Rétention de l'air. Mettez les mains derrière la tête. Tension de tout le corps à la limite du confortable. Prenez conscience des zones de tension, d'inconfort. Et puis, à votre rythme, vous expulsez l'air. Et toutes les zones de tension s'éliminent. Et vous continuez, sur les expirations suivantes, à éliminer les zones d'inconfort, tous les points négatifs qui pourraient encore persister. Et vous récupérez. Je vous propose à présent de vous mettre en avant dans votre siège, dans une posture que nous appelons une posture isokai, qui est en avant sur votre siège, pour pratiquer ce que nous appellerons une sophro-activation vitale. Et pour cela, vous allez pratiquer une douce augmentation de la chaleur, augmentation des diamètres des vaisseaux et de la circulation. Activez, s'il vous plaît, l'énergie au niveau de vos organes vitaux, votre cerveau, la thyroïde, vos poumons, votre cœur, les reins, le foie, la rate, l'appareil digestif. Douce augmentation de la chaleur, augmentation du diamètre des vaisseaux et de la circulation à activer l'énergie. Et à présent, je vous propose de vous mettre à nouveau en position du second degré, cette position qui est au fond de votre fauteuil. Relaxe. Et vous faites une pause et vous intégrez ce que vous venez de vivre au cours de ces trois techniques clés. Pause d'intégration.
Très bien. Respirez tranquillement à votre propre rythme. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre premier système, votre tête, votre visage. Essayez de parcourir lentement avec votre main, vos mains, votre tête, votre visage. Ressentez avec tous vos sens en éveil la texture de votre peau. La différence de texture entre votre peau, vos cheveux. La différence également entre la peau de vos joues, la peau de votre front. Essayez de ressentir tout cela au plus profond de vous-même, jusqu'au plus profond de vos cellules. Essayez à l'inspiration d'associer un mot qui qualifierait votre premier système. Lorsque vous l'avez trouvé, essayez d'évoquer pour vous la douceur, la tendresse, quelque chose d'agréable en rapport avec votre premier système. Et à l'expire, lent et diffus, vous imprégnez tout votre corps de cette plénitude, de ce bien-être. Puis petit à petit, imaginez que vous pratiquez la même chose sur le visage de votre compagne ou de votre compagnon. Vous touchez la peau de son visage, ses cheveux. Vous ressentez la différence de texture entre ses cheveux et sa peau. Vous vous imprégnez de cette douceur. Et à chaque inspiration, vous associez un mot qui qualifierait la douceur de sa peau, de ses cheveux. Et à chaque expiration, vous faites diffuser cette sensation de douceur, de bien-être. Dans tout votre corps, toutes vos cellules. Puis lentement, vous allez vous concentrer sur l'organe vital de votre premier système, le cerveau. Concentrez-vous sur votre cerveau, cet organe si important dans le développement de toutes vos sensations, de toutes vos perceptions, de toutes vos envies. Concentrez-vous sur lui. Et à chaque inspiration, imprégnez-vous de tous les sentiments bienveillants que vous lui portez. Prenez soin de vos organes et votre corps prendra soin de vous. À chaque inspiration, vous ressentez la chaleur, l'énergie vitale de votre cerveau. Et à chaque expiration, vous faites diffuser cette douce chaleur, cette énergie dans tout votre corps, particulièrement dans votre cinquième système, la partie inférieure de votre corps, à votre rythme. Très bien. N'oubliez pas que votre cerveau est un organe prépondérant dans la libération de certaines hormones durant la phase de la découverte de l'autre, durant l'amour, dans le phénomène de l'attachement. Tout est lié. Inspiration, douce chaleur, douceur, tendresse. Et à l'expiration, sentiment de bien-être, corps relâché, sensation d'énergie vitale dans votre corps et particulièrement dans le bas de votre corps. Très bien. Quelques instants maintenant pour une pause phronique d'intégration durant laquelle vous allez réécrire ce que vous venez de vivre. Intégrez au fond de vous les sensations, les perceptions, les émotions que vous venez de ressentir. Gardez-les bien dans un coin de votre conscience où vous pourrez aller les chercher lorsque vous en aurez besoin. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre cinquième système, la partie inférieure de votre corps. Et je vous invite dans un premier temps à parcourir le bas de votre corps, à prendre conscience de sa forme, de son volume, des différences de volume entre les parties plus rebondies comme vos fesses, ou les parties plus en longueur comme vos jambes. Prenez également conscience de la forme de votre zone abdominale. Posez vos mains sur votre ventre et ressentez le soulèvement et l'abaissement de votre abdomen au rythme de votre respiration profonde, basse, abdominale. Et je vous invite maintenant à associer un mot qui qualifierait votre cinquième système. Pour chacun d'entre vous, il représente quelque chose de différent. Cela peut être force, calme, puissance, sensualité. Et à chaque inspiration, vous répétez mentalement ce mot en vous concentrant sur votre cinquième système. Et à chaque expiration, vous faites diffuser dans toutes les cellules de votre corps le sentiment qu'il induit. Quelque chose de confortable, d'agréable. Et chacun vit sa propre expérience avec son mot. Chacun son rythme, chacun son mot, chacun ses sensations. Imaginez maintenant le bas du corps de votre partenaire. Essayez de prendre conscience de la différence de forme de son corps avec le vôtre. Mentalement, parcourez la partie inférieure de son corps, comme vous l'avez fait pour le vôtre. Essayez de percevoir les différences de forme, de volume. Percevez également sa respiration lente et basse, sa zone abdominale qui se soulève et s'abaisse, au rythme de sa respiration basse, profonde. Et comme vous l'avez fait pour votre cinquième système, essayez de trouver un mot qui qualifierait son cinquième système. Chacun trouve son mot. Et à chaque inspiration, vous imprégnez de ce mot. Et à chaque expiration, vous faites diffuser tranquillement dans toutes les cellules de votre corps le sentiment de bien-être que cela induit en vous. Inspire. Expire, corps relâché. Très bien. Puis vous allez vous concentrer particulièrement sur vos organes sexuels. Et tranquillement, vous allez visualiser ceci. Laissez entrer la sensation de bien-être, de détente, de douce chaleur, d'énergie vitale. Prenez soin de votre corps, de toutes les parties de votre corps. Et celui-ci prendra soin de vous. Et à l'inspire, douce chaleur, énergie vitale. Et à l'expire, laissez cette chaleur et cette énergie imprégner votre cinquième système. Particulièrement vos organes sexuels. Organes du plaisir. Du partage. Très bien. Puis je vous invite à pratiquer votre pause d'intégration pour vous remémorer toutes les sensations et perceptions ressenties, ainsi que les sentiments pendant cette partie de séance. Quelques instants à votre rythme. Et l'expérience est différente pour chacun d'entre vous. Votre corps est relâché. Votre respiration est calme et tranquille. Et un sentiment de bien-être et de force vous envahit. Quelques instants à votre rythme. Vous allez pratiquer une pause de totalisation, toujours à votre rythme. Vous allez activer maintenant vos trois capacités. Capacité de confiance en vous. Capacité d'harmonie physique et mentale. Et capacité d'espoir. Très bien. Vous allez maintenant, avant d'entamer la désophronisation, pratiquer trois profondes respirations pour remobiliser votre tonus musculaire. Et vous allez commencer tranquillement votre désophronisation à votre rythme, calmement.
Pour cela, vous allez tranquillement remettre de l'énergie dans votre corps. En commençant par les pieds, et vous allez remonter tranquillement à votre rythme le long des jambes, et vous remettez votre corps en mouvement, et vous remontez au niveau de votre bassin, au niveau de votre dos, de votre ventre, et tout doucement à votre rythme, vous continuez. La désophronisation. Vous respirez plus amplement. Vous pouvez commencer à bouger les bras, votre corps. Vous vous étirez. Vous pouvez bouger votre cou, votre tête. Vous pouvez bâiller. Vous continuez votre désophronisation à votre rythme. Mais vous n'ouvrirez les yeux qu'au dernier moment. Bougez, bâillez, étirez-vous à votre rythme. Merci beaucoup.
Très bien. J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura permis de prendre conscience que la sophrologie peut vous aider.
À bientôt, au revoir chers auditeurs.